De la force de l'imagination. Chapitre 20. Une imagination forte produit l'événement, disent les clercs. Je suis de ceux qui sentent très grand effort de l'imagination. Chacun en est heurté, mais quelques-uns en sont renversés. Son impression me perce, et mon art est de lui échapper, par faute de force à lui résister. Je vivrai de la seule assistance de personnes saines et gaies. La vue des angoisses d'autrui m'angoisse matériellement et à mon sentiment souvent usurpé le sentiment d'un tiers. Un tousseur continuel irrite mon poumon et mon gosier. Je visite plus mal volontiers les malades auxquels le devoir m'intéresse que ceux auxquels je m'attends moins et que je considère moins. Je saisis le mal que j'étudie et le couche en moi. Je ne trouve pas étrange que l'imagination donne et les fièvres et la mort à ceux qui la laissent faire et qui lui applaudissent. Simon Thomas était un grand médecin de son temps. Il me souvient que, me rencontrant un jour à Toulouse chez un riche vieillard pulmonique et traitant avec lui des moyens de sa guérison, il lui dit que c'en était l'un de me donner occasion de me plaire en sa compagnie et que, fichant ses yeux sur la fraîcheur de mon visage et sa pensée sur cette allégresse et vigueur qui regorgeaient de mon adolescence, et remplissant tous ses sens de cet état florissant en quoi j'étais lors, son habitude s'en pourrait amender. Mais il oubliait à dire que la mienne s'en pourrait empirer aussi. Gallus Vibius banda si bien son âme à comprendre les sens et les mouvements de la folie qu'il emporta son jugement hors de son siège. Tellement conque puis il ne l'y put remettre et se pouvait vanter d'être devenu fou par sagesse. Il y en a qui, de frayeur, anticipe la main du bourreau, et celui qu'on débandait pour lui lire sa grâce se trouva raide mort sur l'échafaud du seul coup de son imagination. Nous tressuons, nous tremblons, nous pâlissons et rougissons aux secousses de nos imaginations, et renversés dans la plume, sentons notre corps agité à leur branle, quelquefois jusqu'à en expirer. Et la jeunesse bouillante s'échauffe si avant en son harnais tout endormi qu'elle assouvit en songe ses amoureux désirs. Au point que souvent, comme s'ils avaient consommé l'acte, ils répandent des flots abondants tel un fleuve et en souillent leurs vêtements. Et encore qu'il ne soit pas nouveau de voir croître la nuit des cornes à tel qu'ils ne les avaient pas en se couchant, toutefois l'événement de Scipus, roi d'Italie, est mémorable, lequel, pour avoir assisté le jour avec grande affection au combat des taureaux et avoir eu en songe toute la nuit des cornes en la tête, les produisit en son front par la force de l'imagination. La passion donna au fils de Crésus la voix que nature lui avait refusée. Et Antiochos prit la fièvre par la beauté de Stratonis, trop vivement empreinte en son âme. Pline dit avoir vu Lucius Cocytus, de femme changée en homme, le jour de ses noces. Pontano et d'autres racontent pareille métamorphose advenue en Italie ces siècles passés, et par véhément désir de lui et de sa mère. Iphis, devenu garçon, accomplit les vœux qu'il avait formés étant femme. Passant à Vitry-le-François, je pus voir un homme que l'évêque de Soissons avait nommé Germain en confirmation, lequel tous les habitants de là ont connu et vu fille jusqu'à l'âge de 22 ans, nommé Marie. Il était à cette heure-là fort barbu et vieux et point marié. Faisant, dit-il, quelque effort en sautant, ses membres virils se produisirent. Et est encore en usage entre les filles de là une chanson par laquelle elles s'entravertissent de ne faire point grandes enjambées de peur de devenir garçon comme Marie-Germain. Ce n'est pas tant de merveille que cette sorte d'accident se rencontre fréquent, car si l'imagination peut en telle chose, elle est si continuellement et si vigoureusement attachée à ce sujet que pour n'avoir si souvent à rechoir en même pensée et âpreté de désir, elle a meilleur compte d'incorporer, une fois pour toutes, cette virile partie aux filles. Les uns attribuent à la force de l'imagination les cicatrices du roi d'Agobert et de Saint-François. On dit que les corps s'en enlèvent telle fois de leur place. Et Cels récite d'un prêtre qui ravissait son âme en telle extase que le corps en demeurait long espace sans respiration et sans sentiment. Saint-Augustin en nomme un autre, à qui il ne fallait que faire ouïr des cris lamentables et plaintifs. Soudain, il défaillait et s'emportait si vivement hors de soi qu'on avait beau le tempêter et hurler, et le pincer et le griller, jusqu'à ce qu'il fût ressuscité, lors il disait avoir ouï des voix, mais comme venant de loin, et s'apercevait de ses échaudures et meurtrissures. Et que ce ne fût pas une obstination apostée contre son sentiment, cela le montrait qu'il n'avait cependant ni pouls ni haleine. Il est vraisemblable que le principal crédit des visions, des enchantements et de tels effets extraordinaires viennent de la puissance de l'imagination, agissant principalement contre les âmes du vulgaire, plus molles. On leur a si fort saisi la créance qu'ils pensent voir ce qu'ils ne voient pas. Je suis encore en ce doute que ces plaisantes liaisons de quoi notre monde se voit si entravé, qu'ils ne se parlent d'autre chose, ce sont volontiers des impressions de l'appréhension et de la crainte. Car je sais par expérience que tel de qui je puis répondre comme de moi-même, en qui il ne pouvait choir soupçon aucun de faiblesse et aussi peu d'enchantement, ayant ouï faire le compte à un sien compagnon d'une défaillance extraordinaire, en quoi il était tombé sur le point qu'il en avait le moins de besoin, se trouvant en pareille occasion, l'horreur de ce compte lui vint à coup si rudement frapper l'imagination qu'il encourut une fortune pareille. Et dès lors fut sujet à y rechoir, ce vilain souvenir de son inconvénient le gourmandant et tyrannisant. Il trouva quelque remède à cette rêverie par une autre rêverie. C'est qu'avouant lui-même et prêchant avant la main cette sienne suggestion, la contention de son âme se soulageait sur ce qu'apportant ce mal comme attendu, son obligation en amoindrissait et lui en pesait moins. Quand il a eu loi à son choix, sa pensée débrouillée et débandée, son corps se trouvant en son dû, de le faire lors premièrement tenter, saisir et surprendre à la connaissance d'autrui, il s'est guéri tout net. À qui on a été une fois capable, on n'est plus incapable, sinon par juste faiblesse. Ce malheur n'est à craindre qu'aux entreprises où notre âme se trouve outre mesure tendue de désir et de respect, et notamment où les commodités se rencontrent imprévues et pressantes. On n'a pas moyen de se ravoir de ce trouble. J'en sais à qui il a servi d'y apporter le corps même, demi rassasié d'ailleurs, pour endormir l'ardeur de cette fureur, et qui par l'âge se trouve moins impuissant de ce qu'il est moins puissant. Et tel autre, à qui il a servi aussi qu'un ami l'ait assuré d'être fourni d'une contrebatterie d'enchantement, certain à le préserver. Il vaut mieux que je dise comment ce fut. Un comte, de très bon lieu, de qui j'étais fort privé, se mariant avec une belle dame qui avait été poursuivie de telle qui assistait à la fête, mettait en grande peine ses amis, et nommément une vieille dame sa parente, qui présidait à ses noces et les faisait chez elle, craintive de ses sorcelleries, ce qu'elle me fit entendre. Je la priai de s'en reposer sur moi. J'avais de fortune en mes coffres certaines petites pièces d'or plate, où étaient gravées quelques figures célestes contre le coup du soleil et pour ôter la douleur de tête, la logeant à point sur la couture du crâne. Et pour l'y tenir, elle était cousue à un ruban propre à rattacher sous le menton. Rêverie germaine à celle de quoi nous parlons. Jacques Pelletier, vivant chez moi, m'avait fait ce présent singulier. J'avisais d'en tirer quelque usage et dit au comte qu'il pourrait court fortune comme les autres, y ayant là des hommes pour lui en vouloir prêter une, mais que hardiment il s'alla coucher. Que je lui ferais un tour d'amis et n'épargnerais à son besoin un miracle qui était en ma puissance, pourvu que sur mon honneur il me promît de le tenir très fidèlement secret. Seulement, comme sur la nuit on irait lui porter le réveillon, s'il lui était mal allé, il me fit un tel signe. Il avait eu l'âme et les oreilles si battues qu'il se trouva lié du trouble de son imagination et me fit son signe à l'heure susdite. Je lui dis lors à l'oreille qu'il se leva, sous couleur de nous chasser, et prit en se jouant la robe de nuit que j'avais sur moi, nous étions de taille fort voisine, et s'en vêtit, tant qu'il aurait exécuté mon ordonnance, qui fut, quand nous serions sortis, qu'il se retira à tomber de l'eau, dit trois fois telle parole et fit tel mouvement, qu'à chacune de ces trois fois, il ceignit le ruban que je lui mettais en main et coucha bien soigneusement la médaille qui y était attachée sur ses rognons, la figure en telle posture. Cela fait, ayant à la dernière fois bien étreint ce ruban pour qu'il ne se pût ni dénouer ni mouvoir de sa place, qu'en toute assurance, il s'en retourna à son prix fait et n'oublia de rejeter ma robe sur son lit en manière qu'elle les abrita tous deux. Ces singeries sont le principal de l'effet. Notre pensée ne se pouvant démêler que moyens si étranges ne viennent de quelque abstruse science. Leur inanité leur donne poids et révérence. Somme, il fut certain que mes caractères se trouvèrent plus vénériens que solaires, plus en action qu'en prohibition. Ce fut une humeur prompte et curieuse qui me convia à tel effet éloigné de ma nature. Je suis ennemi des actions subtiles et feintes, et hais la finesse en mes mains, non seulement récréative, mais aussi profitable. Si l'action n'est vicieuse, la route l'est. Amasis, roi d'Égypte, épousa Laodicée, très belle fille grecque, et lui, qui se montrait gentil compagnon partout ailleurs, se trouva court à jouir d'elle et menaça de la tuer, estimant que ce fût quelque sorcerie. Comme est-ce chose qui consiste en fantaisie, elle le rejeta à la dévotion et, ayant fait ses vœux et promesses à Vénus, il se trouva divinement remis dès la première nuit d'après ses oblations et sacrifices. Or, elles ont tort de nous recueillir de ces contenances mineuses, querelleuses et fuyardes qui nous éteignent en nous allumant. La bru de Pythagore disait que la femme qui se couche avec un homme doit avec sa cote laisser en même temps la honte et la reprendre avec sa cote. L'âme de l'assaillant, troublée de plusieurs diverses alarmes, se perd aisément. Et à qui l'imagination a fait une fois souffrir cette honte, et elle ne l'a fait souffrir qu'aux premières acquaintances, d'autant qu'elles sont plus ardentes et âpres, et aussi quand cette première connaissance qu'on donne de soi on craint beaucoup plus de faillir, ayant mal commencé, il entre en fièvre et dépit de cet accident qui lui dure aux occasions suivantes. Les mariés, le temps étant tout leur, ne doivent ni presser ni tâter leur entreprise s'ils ne sont prêts. Et vaut mieux faillir indécemment à étreiner la couche nuptiale, pleine d'agitation et de fièvre, attendant une et une autre commodité plus privée et moins alarmée, que de tomber en une perpétuelle misère pour s'être étonné et désespéré du premier refus. Avant la possession prise, le patient se doit à saillie et divertant légèrement essayer et offrir, sans se piquer et opiniâtrer à se convaincre définitivement soi-même. Ceux qui savent leurs membres de nature docile, qu'ils se soignent seulement de contre-piper leur fantaisie. On a raison de remarquer l'indocile liberté de ce membre, s'ingérant si importunément lorsque nous n'en avons que faire, et défaillant si importunément lorsque nous en avons le plus à faire, et contestant de l'autorité si impérieusement avec notre volonté, refusant avec tant de fierté et d'obstination nos sollicitations aimantales et manuelles. Si toutefois, en ce qu'on gourmande sa rébellion et qu'on en tire preuve de sa condamnation, il m'avait payé pour plaider sa cause, à l'aventure mettrais-je en soupçon nos autres membres, ses compagnons, de lui être allé dresser, par belle envie de l'importance et douceur de son usage, cette querelle apostée et avoir par complot armé le monde à l'encontre de lui, le chargeant malignement seul de leur faute commune. Car je vous donne à penser s'il y a une seule des parties de notre corps qui ne refuse à notre volonté souvent son opération et qui souvent ne s'exerce contre notre volonté. Elles ont chacune des passions propres qui les éveillent et endorment sans notre congé. À combien de fois témoignent les mouvements forcés de notre visage les pensées que nous tenions secrètes et nous trahissent aux assistants? Cette même cause qui anime ce membre anime aussi sans notre su le cœur, le poumon et le pouls, la vue d'un objet agréable, répandant imperceptiblement en nous la flamme d'une émotion fiévreuse. N'y a-t-il que ces muscles et ces veines qui s'élèvent et se couchent, sans l'aveu non seulement de notre volonté, mais aussi de notre pensée? Nous ne commandons pas à nos cheveux de se hérisser et à notre peau de frémir de désir ou de crainte. La main se porte souvent où nous ne l'envoyons pas. La langue se transit et la voix se fige à son heure. Lors même que, n'ayant de quoi frire, nous le lui défendrions volontiers, l'appétit de manger et de boire ne laisse pas d'émouvoir les parties qui lui sont sujettes, ni plus ni moins que cet autre appétit, et nous abandonne de même, hors de propos, quand bon lui semble. Les outils qui servent à décharger le ventre ont leurs propres dilatations et compressions, outre et contre notre avis, comme ceux-ci destinés à décharger les rognons. Et ce que, pour autoriser la puissance de notre volonté, saint Augustin allègue avoir vu quelqu'un qui commandait à son derrière autant de paix qu'il en voulait. Et que Vivès, enchéri d'un autre exemple de son temps, de paix organisée suivant le ton des voix qu'on leur prononçait, ne suppose non plus pure l'obéissance de ce membre. Car en est-il ordinairement de plus indiscret et tumultuaire ? Joint que j'en connais un si turbulent et revêche, qu'il y a 40 ans qu'il tient son maître à péter d'une haleine et d'une obligation constante et irrémitante, et le mène ainsi à la mort. Et plût à Dieu que je ne le suce que par les histoires. Combien de fois notre ventre, par le refus d'un seul paix, nous mène jusqu'aux portes d'une mort très angoisseuse, et que l'empereur, qui nous donna liberté de péter partout, nous en eût donné le pouvoir. Mais notre volonté, pour les droits de qui nous mettons en avant ce reproche, combien plus vraisemblablement la pouvons-nous marquer de rébellion et sédition par son dérèglement et désobéissance ? Veut-elle toujours ce que nous voudrions qu'elle voulût ? Ne veut-elle pas souvent ce que nous lui prohibons de vouloir, et à notre évident dommage ? Se laisse-t-elle non plus mener aux conclusions de notre raison ? Enfin, je dirais pour monsieur ma partie, que plaise à considérer qu'en ce fait sa cause étant inséparablement conjointe à un consort et indistinctement, on ne s'adresse pourtant qu'à lui, et par les arguments et charges qui ne peuvent appartenir à son dit consort. Car l'effet, dit celui, est bien de convier inopportunément parfois, mais de refuser jamais, et de convier encore tacitement et quiètement. Partant, se voit l'animosité et illégalité manifeste des accusateurs. Quoi qu'il en soit, protestant que les avocats et juges ont beau quereller et sentencier, nature tirera cependant son train, qui n'aurait fait que raison quand elle aurait doué ce membre de quelque particulier privilège, auteur du seul ouvrage immortel des mortels. Ouvrage divin selon Socrate, et amour désir d'immortalité, et démon immortel lui-même. Tel à l'aventure, par cet effet de l'imagination, laisse ici les écrouelles que son compagnon reporte en Espagne. Voilà pourquoi en telle chose l'on a accoutumé de demander une âme préparée. Pourquoi pratiquent les médecins, avant main, la créance de leur patient avec tant de fausses promesses de sa guérison, si ce n'est afin que l'effet de l'imagination supplée l'imposture de leur aposème? Ils savent qu'un des maîtres de ce métier leur a laissé par écrit qu'il s'est trouvé des hommes à qui la seule vue de la médecine faisait l'opération. Et tout ce caprice m'est tombé présentement en main sur le compte que me faisait un domestique apothicaire de feu mon père, homme simple et suisse, nation peu vaine et mensongère, d'avoir connu longtemps un marchand à Toulouse, maladif et sujet à la pierre, qui avait souvent besoin de clistères et se les faisait diversement ordonner aux médecins, selon l'occurrence de son mal. Apportés qu'ils étaient, il n'y avait rien omis des forces accoutumées. Souvent ils tâtaient s'ils étaient trop chauds, le voilà couché, renversé, et toutes les approches faites, sauf qu'il ne s'y faisait aucune injection. L'apothicaire retiré après cette cérémonie, le patient accommodé comme s'il avait véritablement pris le clistère, il en sentait pareil effet à ceux qui les prennent. Et si le médecin n'en trouvait l'opération suffisante, il lui en redonnait deux ou trois autres de même forme. Mon témoin jure que pour épargner la dépense, car il les payait comme s'il les eût reçus, la femme de ce malade ayant quelquefois essayé d'y faire seulement mettre de l'eau tiède, l'effet en découvrit la fourbe, et pour avoir trouvé cela inutile, qu'il fallut revenir à la première façon. Une femme, pensant avoir avalé une épingle avec son pain, criait et se tourmentait comme ayant une douleur insupportable au gosier, où elle pensait la sentir arrêtée. Mais parce qu'il n'y avait ni enflure ni altération par le dehors, un habile homme, ayant jugé que ce n'était que fantaisie et opinion, prise de quelques morceaux de pain qu'il avait piqué en passant, la fit vomir et jeta à la dérobée dans ce qu'elle rendit une épingle tordue. Cette femme, cuidant l'avoir rendue, se sentit soudain déchargée de sa douleur. Je sais qu'un gentilhomme, ayant traité chez lui une bonne compagnie, se vanta 3 ou 4 jours après, par manière de jeu, car il n'en était rien, de leur avoir fait manger un chat en pâte. De quoi une demoiselle de la troupe prit telle horreur qu'en étant tombée en un grand dévoiement d'estomac et fièvre, il fut impossible de la sauver. Les bêtes mêmes se voient comme nous sujettes à la force de l'imagination. Témoin les chiens, qui se laissent mourir de deuil de la perte de leur maître. Nous les voyons aussi japper, trémousser en songe, hennir les chevaux et se débattre. Mais tout ceci se peut rapporter à l'étroite couture de l'esprit et du corps s'entrecommuniquant leur fortune. C'est autre chose que l'imagination agisse quelquefois, non contre son corps seulement, mais contre le corps d'autrui. Et tout ainsi qu'un corps rejette son mal à son voisin, comme il se voit en la peste, en la vérole et au mal des yeux, qui se chargent de l'un à l'autre. En regardant les blessés, les yeux sont blessés eux aussi, et bien des maux atteignent les corps par contagion. Pareillement, l'imagination, ébranlée avec véhémence, élance des traits qui puissent offenser l'objet étranger. L'ancienneté a tenu de certaines femmes en city qu'animées et courroucées contre quelqu'un, elles le tuaient du seul regard. Les tortues et les autruches couvent leurs œufs de leur seule vue, signe qu'ils y ont quelques vertus éjaculatrices. Et quant aux sorciers, on les dit avoir des yeux offensifs et nuisants. Je ne sais quel mauvais œil fascine mes tendres agneaux. Ce sont pour moi mauvais répondants que magiciens, tant il y a que nous voyons par expérience les femmes envoyer au corps des enfants qu'elles portent au ventre des marques de leur fantaisie, témoin celle qui engendra le mort. Et il fut présenté à Charles, roi de Bohême et empereur, une fille d'auprès de Pise, toute velue et hérissée, que sa mère disait avoir été ainsi conçue à cause d'une image de Saint Jean-Baptiste pendue en son lit. Des animaux, il en est de même. Témoins les brebis de Jacob, et les perdrix et lièvres que la neige blanchit aux montagnes. On vit dernièrement chez moi un chat guettant un oiseau au haut d'un arbre, et s'étant fiché la vue ferme l'un contre l'autre quelque espace de temps, l'oiseau s'être laissé choir comme mort entre les pattes du chat, ou enivré par sa propre imagination, ou attiré par quelque force attractive du chat. Ceux qui aiment la volerie ont ouï faire le conte du fauconnier qui, arrêtant obstinément sa vue contre un milan en l'air, gageait de la seule force de sa vue le ramener contre bas et le faisait à ce qu'on dit. Car les histoires que j'emprunte, je les renvoie sur la conscience de ceux de qui je les prends. Les discours sont à moi et se tiennent par la preuve de la raison, non de l'expérience. Chacun y peut joindre ses exemples et qui n'en a point, qu'il ne laisse pas de croire qu'il en est assez, vu le nombre et variété des accidents. Si je ne compare bien, qu'un autre compare pour moi. Aussi, en l'étude que je traite de nos mœurs et mouvements, les témoignages fabuleux, pourvu qu'ils soient possibles, y servent comme les vrais. Advenus ou non advenus, à Rome ou à Paris, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité, duquel je suis utilement avisé par ce récit. Je le vois et en fais mon profit, également en nombre qu'en corps. Et aux diverses leçons qu'ont souvent les histoires, je prends à me servir de celle qui est la plus rare et mémorable. Il y a des auteurs, desquels la fin, c'est dire les événements. La mienne, si j'y savais advenir, serait dire sur ce qui peut advenir. Il est justement permis aux écoles de supposer des similitudes quand ils n'en ont point. Je n'en fais pas ainsi pourtant et surpasse de ce côté-là, en religion superstitieuse, toutefois historiale. Aux exemples que je tire séant de ce que j'ai lu, oui, fait ou dit, je me suis défendu d'oser altérer jusqu'aux plus légères et inutiles circonstances. Ma conscience ne falsifie pas un iota. Mon inscience, je ne sais. Sur ce propos, j'entre parfois en pensée qu'il puisse assez bien convenir à un théologien, à un philosophe, et tel genre d'exquise et exacte conscience et prudence, d'écrire l'histoire. Comment peuvent-ils engager leur foi sur une foi populaire? Comment répondre des pensées de personnes inconnues et donner pour argent comptant leurs conjectures? Des actions à divers membres qui se passent en leur présence, ils refuseraient d'en rendre témoignage, assermentés par un juge. et non homme si familier des intentions duquel ils entreprennent de pleinement répondre. Je tiens moins hasardeux d'écrire les choses passées que présentes, d'autant que l'écrivain n'a à rendre compte que d'une vérité empruntée. Certains me conviennent d'écrire les affaires de mon temps, estimant que je les vois d'une vue moins blessée de passion qu'un autre, et de plus près, pour l'accès que fortune m'a donné au chef de divers partis. Mais ils ne disent pas que pour la gloire de Salluste, je n'en prendrai pas la peine. Ennemi juré d'obligation, d'assiduité, de constance, qu'il n'est rien si contraire à mon style qu'une narration étendue. Je me recoupe si souvent à faute d'haleine. Je n'ai ni composition ni explication qui vaille, ignorant au-delà d'un enfant des phrases et vocables qui servent aux choses plus communes. Pourtant ai-je pris à dire ce que je sais dire, accommodant la matière à ma force. Si j'en prenais qui me guida, ma mesure pourrait faillir à la sienne. Que ma liberté étant si libre, j'eusse publié des jugements, à mon gré même et selon raison, illégitimes et punissables. Plutarque nous dirait volontiers de ce qu'il en a fait, que c'est l'ouvrage d'autrui, que ses exemples soient en tout et partout véritables, qu'il soit utile à la postérité et présenté d'un lustre qui nous éclaire à la vertu, que c'est son ouvrage. Il n'est pas dangereux comme en une drogue médicinale, en un conte ancien, qu'il soit ainsi ou ainsi.